Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, l'élucidation d'un cold case de 36 ans. Un homme vient d'avouer le meurtre d'une jeune mère de famille en 1986 grâce à la relance de l'enquête près de Grenoble. Nous irons sur place. Au revoir ou adieu, certains ministres hésitent. Ce soir, au dernier dîner du gouvernement Castex, le futur ex-premier ministre reçoit dans les jardins de Matignon. Adieu, sans aucun doute, au Lido. Le célèbre cabaret parisien baisse le rideau pour de bon, pas assez rentable. La plupart des postes vont être supprimés. Bonne nouvelle en revanche sur le marché de l'emploi. Arcelor recrute en masse cette année. Détail à suivre. Une image historique au cœur de notre galaxie. La toute première photo du trou noir tapis au centre de la Voie lactée. Présentation en fin de journal. Toujours du beau temps demain sur la majeure partie de la France, mais instable sur le centre-est. L'invité écho à 22h20, je recevrai le jeune patron de Bibs, une appli d'achat-vente d'occasion pour bébés. De quoi réaliser de très belles économies. Et puis juste avant la libre antenne, les gros titres de la presse demain matin. Dans un instant, le dernier dîner du gouvernement Castex, mais d'abord l'élucidation de ce cold case près de Grenoble depuis 36 ans. Et ce jour de printemps 1986, cette affaire criminelle restait un mystère. Les enquêteurs ont finalement trouvé la clé de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti. 36 ans plus tard, un homme a été mis en examen, Jean-Luc Boujon. Il reconnaît l'enlèvement et le meurtre de cette jeune mère de famille.
Absolument. Yves Chatin, âgé aujourd'hui de 56 ans, a tout avoué. Il faut dire que les gendarmes qui ont rouvert le dossier il y a 2 ans à la demande des proches de la disparue avaient un certain nombre d'éléments à présenter à celui qui déjà à l'époque avait fait figure de suspect. L'enquête a donc été reprise entièrement avec les outils modernes d'investigation, notamment des logiciels de recherche criminelle. Et l'homme, âgé de 20 ans à l'époque, a reconnu l'intégralité des faits, explique le procureur de la République adjoint de Grenoble, Boris Dufault.
Il a expliqué avoir eu une altercation verbale avec Marie-Thérèse Bonfanti, sa voiture gênant le passage de la sienne puisqu'il était en train de revenir d'avoir fait des courses. Il est ensuite rentré à son domicile. Elle est allée le retrouver chez lui pour lui demander de s'excuser de son comportement outrancier. Il l'a alors saisi par le cou à deux mains et l'a tué par étranglement. Il a chargé ensuite le corps dans le coffre de sa voiture, roulé quelques kilomètres et l'a déposé en pleine nature.
Aujourd'hui, le soulagement de la famille de Marie-Thérèse Bonfanti est immense, mais l'amertume est là également, car à l'époque, la justice avait conclu l'enquête par un non-lieu. La culpabilité d'Yves Chatin, qui pourtant avait déjà été condamné pour des faits de violence sur personne, n'avait pu être prouvée. Il reste maintenant à retrouver le corps de la disparue et à voir si le mis en cause ne pourrait pas être relié à d'autres affaires de disparition dans le secteur depuis les années 80.
Jean-Luc Boujon en Isère pour Europe 1. On apprend l'ouverture d'une information judiciaire sur les pizzas Buitoni contaminé, suspecté d'avoir provoqué la mort de 2 enfants. Enquête confiée à un juge d'instruction pour homicide involontaire à l'égard d'une personne et blessures involontaires concernant 14 autres victimes. Garden party nocturne ce soir à Matignon. C'est le dernier dîner des ministres du gouvernement et de leurs conjoints autour de Jean Castex. Dans les jardins du Premier ministre sortant, les valises sont prêtes, Arthur Delaborde.
Oui, c'est sans doute leur dernier moment tous ensemble. Les ministres et leurs conjoints réunis ici pour un dîner, ou plus exactement un buffet dressé dans le jardin de l'hôtel de Matignon. Une soirée décrite comme chaleureuse, même si on imagine qu'il y a tout de même un peu de tension puisque la plupart des membres du gouvernement attendent d'être fixés sur leur sort. L'occasion en tout cas de rendre hommage au travail accompli par Jean Castex qui ne restera pas à Matignon ni même au gouvernement. Le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau.
Le professionnalisme, la connaissance du territoire, la capacité à expliquer aux Français ce qu'on fait. C'est pas la moindre des choses qu'on fait de la politique. Donc voilà. Et puis une capacité à faire travailler les équipes. Connaissant en plus très bien la mécanique, donc on finit un quinquennat, un autre démarre. Donc par nature, c'est un moment particulier, mais c'est une page qui sourde, oui, c'est normal.
Jean Castex, qui avant de connaître le nom de son successeur et de présenter la démission de son équipe, devrait terminer la semaine à son poste. Il est attendu ce dimanche au Vatican, où il conduira la délégation française pour la canonisation de Charles de Foucault. Un voyage qui devrait donc être son dernier déplacement officiel, même si à ce stade, il n'est pas totalement exclu que cela soit son premier en tant qu'ancien locataire de Matignon.
Arthur Delaborde devant l'hôtel Matignon pour Europe 1. Quelques heures plus tôt ce jeudi, Jean Castex a effectué son probable dernier déplacement en tant que Premier ministre dans le Vaucluse. Il a promis aux agriculteurs que l'exécutif ne les abandonnerait pas face à la sécheresse qui frappe maintenant les deux tiers du pays selon Météo France en raison d'un manque de pluie quasi continu depuis le mois de septembre. Jean-Luc Mélenchon ne se représentera pas aux législatives dans sa circonscription des Bouches-du-Rhône. C'est son directeur de campagne qu'il remplace, l'eurodéputé insoumis Emmanuel Bompard. Jean-Luc Mélenchon estime avoir la légitimité nécessaire tirée de son score à la présidentielle pour briguer Matignon en cas de victoire de la nouvelle Union populaire. Il avait laissé planer le doute sur ses intentions. Éric Zemmour se lance quant à lui dans cette bataille des législatives. L'ancien candidat d'extrême droite à la présidentielle se présente dans la 4e circonscription du Var, qui comprend notamment Saint-Tropez. Éric Zemmour a officialisé son choix sur une plage de Cogolin. Vous y étiez pour Europe 1, Victor Chabert.
Oui, Éric Zemmour l'a annoncé ce soir devant 200 militants réunis dans un décor de carte postale sur la plage de Cogolin, un pupitre posé sur le sable. Dans son dos, le bleu du golfe de Saint-Tropez, il s'est déclaré candidat.
Je pense que c'est un secret de Polichinelle. Vous savez pourquoi je suis venu ici? Pour vous annoncer une bonne nouvelle, je suis candidat ici pour l'élection législative.
Alors Éric Zemmour n'a pas choisi la 4e circonscription du Var par hasard. C'est ici qu'il a réalisé ses meilleurs scores au premier tour de l'élection présidentielle. 14% des voix, le double de son score national contre 32% pour Marine Le Pen et 24% pour Emmanuel Macron. Le président de Reconquête a longuement hésité avant de se lancer dans la bataille des législatives. Ses équipes ont mûrement réfléchi cette décision et notamment sur un point, devait-il prendre ce risque de concourir à la députation et de subir peut-être un deuxième échec à la suite. La réponse est désormais oui. Il commence sa campagne demain. Il sera sur le marché de Sainte-Maxime.
Victor Chabert à Cogolin dans le Var. Éric Zemmour qui voit par ailleurs sa relaxe confirmée en appel pour ses propos sur le maréchal Pétain. Il était jugé pour contestation de crimes contre l'humanité après avoir affirmé que Pétain aurait sauvé des juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Partons maintenant pour Grenoble avec cette mobilisation sans précédent contre le port du Burkini. L'opposition municipale soutenue par 40 maires et une trentaine d'élus de la métropole. Ensemble, ils viennent de signer un appel contre le projet d'Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, souhaite autoriser le burkini dans les piscines de la ville. L'ancien ministre de Jacques Chirac, Alain Carignon, est le principal chef de l'opposition grenobloise.
Il est évident qu'il s'agit là d'une rupture du pacte républicain, du vivre ensemble, de nos valeurs communes. Il s'agit d'une incontestable régression de la cause de l'émancipation des femmes et il s'agit d'une concession intolérable, inadmissible à l'islamisme politique. Éric Piolle, il a un accord avec l'islamisme politique. Il s'agit d'une technique pour gagner les élections. C'est un clientélisme évident au détriment de tout ce qui nous rassemble. Il divise gravement les Grenoblois. Toutes les personnes attachées à la République laïque lui demandent de retirer cette délibération, de renoncer à ses excès.
Alain Carignon, chef de file de l'opposition à la mairie de Grenoble. La France soutient pleinement le choix de la Finlande d'adhérer à l'OTAN pendant que la Russie dénonce une menace pour sa sécurité. Moscou envisage de répliquer par des mesures dites militaro-techniques alors qu'Helsinki doit encore adresser dimanche sa demande formelle. Frédéric Ancel est spécialiste de géopolitique. Quels sont donc les avantages pour la Finlande de rejoindre l'OTAN ?
La Finlande veut être sécurisée. Le choc psychologique, le choc politique liée à l'agression russe en Ukraine a fait littéralement basculer en quelques semaines l'opinion et la classe politique finlandaise qui donc du coup cherche bien évidemment la sacro-sainte protection de cette alliance qui, je le rappelle, est de loin la plus puissante existante aujourd'hui sur la planète. La Russie officielle voit ça comme une menace. Il ne faut pas confondre le sentiment victimaire d'une partie de la population russe quant à l'OTAN, quant à l'Occident, bon, d'une part, et d'autre part, l'instrumentalisation de cette crainte par un pouvoir nationaliste qui est celui de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, Vladimir Poutine surinstrumentalise cette adhésion, mais il n'est pas du tout évident que la population russe, elle, soit réellement craintive de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN.
Frédéric Ancel, professeur de relations internationales avec Zoé Pallier. Les Nations Unies lancent une enquête sur les crimes de guerre attribués à l'armée russe en Ukraine. Décision approuvée aujourd'hui à une écrasante majorité par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Pour les visiteurs du monde entier, c'est une adresse mythique.
C'est la fête, fête à Paris.
Et à Paris, ça va faire un vide sur la plus belle avenue du monde, 116 avenue des Champs-Élysées. Le Lido et sa revue légendaire appartiendront bientôt à l'histoire. Le nouveau propriétaire, le géant de l'hôtellerie Accor, a décidé de transformer le cabaret en salle de spectacle. Ça veut dire aussi que la plupart des emplois vont disparaître, Alice Dangean, car le Lido ne faisait plus recette.
Oui, sur la dernière décennie, le cabaret a accumulé 80 millions d'euros de pertes. Selon sa direction, le spectacle actuel créé en 2015 n'a pas permis de redresser la barre. Pour vous donner une petite idée, le show n'était plus donné que 3 fois par semaine. Quant à la grande époque, il y avait jusqu'à 2 représentations par soir. Alors le Lido évoque l'effet des grèves et de la crise sanitaire. En effet, tous les établissements type cabaret, music hall ont vu leur fréquentation s'effondrer. À ce moment-là, ils ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires en 2020. Mais voilà, la direction invoque aussi le désintérêt croissant du public pour le modèle du dîner-spectacle. Le groupe supprime donc 157 postes sur les 184 que compte le mythique cabaret parisien. Il n'y aura donc plus de troupes permanentes. La plupart des suppressions de postes se feront via des départs en retraite et des reclassements, selon plusieurs sources syndicales. Une phase de concertation s'est donc ouverte aujourd'hui.
Élise Dangean, ce jeudi nous apporte tout de même une bonne nouvelle sur le marché de l'emploi. Après des années compliquées pour l'industrie, eh bien ArcelorMittal recrute. Le géant de la sidérurgie va créer 530 postes cette année sur ses sites du Nord et du Pas-de-Calais. Lionel Gougelot, vous vous êtes rendu pour Europe 1 sur l'un des 3 sites concernés à Dunkerque. C'est la plus grande usine d'acier en Europe. Lionel, avec ses embauches, Arcelor répond aux mutations et à la relance du secteur.
Oui, effectivement, mutation d'abord parce que les sites d'Arcelor ont fait l'objet au début de l'année d'un vaste plan d'investissement d'1,7 milliard d'euros pour réduire leurs émissions carbone de 40% d'ici une dizaine d'années. Mutation aussi parce que dans la sidérurgie, les métiers changent. On a besoin d'opérateurs qui pilotent par exemple des outils ou des machines par ordinateur. Et relance donc parce qu'ici, une nouvelle usine sera créée à Mardic dans les prochains mois pour répondre à la demande du marché européen, notamment l'automobile et les équipements industriels. Les besoins en personnel sont donc importants et les opportunités réelles pour les bacs à bac plus 5, selon Thierry Flamand, le directeur du site d'Arcelor Dunkerque.
On est vraiment aujourd'hui non pas dans un remplacement habituel des gens qui partent, mais vraiment dans un essor qui doit accompagner nos projets pour faire la sidérurgie de demain à Dunkerque et accompagner ces transformations importantes qui vont toucher nos sites.
Mais si le deuxième sidérurgiste mondial qui a annoncé un bénéfice record de 15 milliards de dollars l'an dernier se porte bien, eh bien il peine à trouver des candidats aux formations qui correspondent à ces métiers de l'industrie. Peut-être aussi reconnaît la responsable du recrutement parce que ces métiers de la sidérurgie ne sont pas suffisamment valorisés dans les parcours scolaires.
Lionel Gougelot à Dunkerque pour Europe 1. C'était un rendez-vous très attendu par les juges d'instruction qui travaillent sur la disparition de Delphine Jubilard. Son mari Cédric est soupçonné du meurtre de son épouse. Eh bien il a été confronté aujourd'hui à son ancien voisin de cellule, Marco, c'est son nom, affirme avoir reçu ses confidences, notamment sur le lieu où se trouverait le corps de Delphine Jubilard. Mais après des heures de confrontation, Benjamin Péter, chacun campe sur ses positions.
Bague à chaque doigt, gants en cuir et 3 chaînes d'argent autour du cou, Marco a passé 4 heures dans le bureau des juges d'instruction, 4 heures pendant lesquelles il a confirmé sa version. Cédric Jubilard lui aurait bien dit qu'il avait tué sa femme avec un couteau, caché le corps dans la ferme proche du domicile du couple, la même où des fouilles ont été menées en janvier dernier, en vain. Faux, répond Cédric Jubilard à ses côtés, qui campe sur ses positions. Et pour son avocat, maître Alexandre Martin, s'il a fait quelques déclarations, c'était juste pour avoir la paix.
Il est harcelé en permanence pour savoir si c'est lui qui a tué Delphine. Et il répond toujours « je suis innocent », ce que disent tous les détenus. Et à un moment donné, de Guerrelas, il a dit « oui, tu veux savoir, c'est moi, elle est enterrée à la ferme qui a brûlé », chose qu'il avait déjà déclarée et qui a été vérifiée, fouillée. Ça ne correspond à aucune réalité, c'est la seule chose qu'il concède. Pour le reste, ce sont des inventions d'un homme qui manifestement a négocié autre chose, je crois, sa remise en liberté.
Et la défense continue donc de réclamer la remise en liberté de Cédric Jubilard. Ses avocats attendent dans les prochains jours la convocation du juge des libertés qui devra arriver et faire l'objet d'un débat avant le 18 juin, date anniversaire de l'incarcération du mari de Delphine. Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Le monde du foot ne veut pas laisser passer ces chants entonnés hier soir par des supporters niçois lors de la rencontre avec Saint-Étienne. Des chants insultant la mémoire d'Emiliano Sala, cet ancien joueur de Nantes mort dans un accident d'avion en 2019. La commission de discipline est saisie, Cyril de la Morinerie, mais les ultras de Nice assument complètement leur attitude.
Oui, aucune excuse. Les ultras niçois parlent en revanche d'une erreur et surtout plaident le second degré. Nous comprenons l'émoi que peut susciter les paroles de ce chant. Le second degré est partie intégrante de la culture ultra. Fin de citation. Ses supporters égratignent au passage l'entraîneur Christophe Galtier qui leur avait hier soir adressé ce message qu'ils restent chez eux. Les ultras niçois réitèrent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches d'Emiliano Sala. À l'inverse, d'autres fans niçois, eux, condamnent très clairement ces chants haineux. C'est le cas de Solange Claude, à la tête du club des supporters niçois.
C'est complètement inadmissible que ça se passe. Par contre, dans les stades de foot, on entend de tout. Et quand c'est Nice, elle s'est montée, elle s'est poussée à l'extrême. On condamne comme le club, comme l'entraîneur, comme le staff. On condamne. Moi-même, j'ai condamné ce matin sur ma page Facebook. C'est pas normal.
Condamnation sans appel de Christian Estrosi, le maire de Nice, demande que les supporters fautifs soient identifiés et propose samedi prochain, lors du match Nice-Lille, que l'image d'Emiliano Sala soit diffusée sur les écrans du stade. Des clubs se mobilisent également. Clermont invite ses supporters à rendre hommage à Emiliano Sala par une minute d'applaudissement à la 9e minute, donc, lors de son dernier match à domicile, dans une semaine. En tout cas, la commission de discipline est saisie. Nice risque encore gros lors des incidents face à Marseille. Le club niçois avait écopé d'un point de retrait et le match avait été rejoué à huis clos.
Cyril de la Morinerie. Allez, à votre avis, qui est le sportif le mieux payé du monde, en tout cas l'année dernière? Eh bien, il s'appelle Lionel Messi, le footballeur argentin qui a gagné 125 millions d'euros l'année dernière. Ça fait un peu moins de 350 000 euros par jour, on va dire. Les deux autres marches du podium sont occupées par LeBron James et Cristiano Ronaldo, selon le magazine Forbes. C'est un rêve d'astronome qui vient de se réaliser et en tout cas une vraie curiosité pour nous autres pauvres terriens. On découvre aujourd'hui la toute première photo du monstre qui anime les bras de notre galaxie. Un trou noir supermassif qui se cache au centre de la Voie lactée. La Terre, vous le savez, tourne autour du Soleil. Eh bien, le Soleil tourne autour de lui, ce trou noir qui fait d'ailleurs 4 millions de fois son poids. Alain Riazuelo est spécialiste des trous noirs à l'Institut d'astrophysique de Paris et il nous explique pourquoi cette photo est exceptionnelle.
C'est exceptionnellement difficile, donc exceptionnel, puisque en fait la problématique est la suivante. Il est situé à des distances assez importantes de nous, c'est-à-dire 26 000 années-lumière, sachant qu'une année-lumière c'est 10 000 milliards de kilomètres. Et donc voir un objet de taille significative à une telle distance, évidemment, c'est extrêmement difficile. Alors, un trou noir s'appelle un trou noir parce que c'est un objet qui emprisonne la lumière. Donc quand vous êtes trop près d'un trou noir, en fait, vous ne pouvez pas vous en échapper. Et donc un trou noir emprisonnant la lumière, il n'émet pas de lumière. C'est un objet qui est parfaitement sombre. Donc le trou noir va être trahi, si vous voulez, par le champ du signe de la matière qu'il est en train d'engloutir. Et c'est cette configuration-là qu'on a réussi à imager.
Sans ces observations, on n'était peut-être pas exactement sur la bonne voie pour bien modéliser la façon dont se comporte ce disque de matière autour du trou noir.
L'astrophysicien Alain Riazuelo avec Yasmina Katou. Il ressemble un peu à un gros donut, ce trou noir, quand on regarde la photo. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Marlène Duret.
Non, pas encore, mais c'est passionnant. J'avais envie de l'écouter encore un petit
fascinant,
peu.
Fascinant, en tout cas.
Oui, vraiment.
Puisque vous êtes là, on va se rapprocher un peu de notre étoile à nous, le Soleil, Marlène Duret, qui va se montrer plus généreux demain, à part dans quelques régions.
Oui, je vous le confirme, Alexandre. Alors, on aura toujours ce risque orageux qui va concerner quelques régions centrales du pays, un petit peu sur un axe, une diagonale, qui s'étire du Nord-Aquitaine jusqu'au sud de l'Alsace. Donc, des averses résiduelles pour commencer le matin du côté de la Franche-Comté. Et puis, une nouvelle salve orageuse qui va arriver en fait en cours de nuit par l'Aquitaine. Donc, des averses à caractère orageux pour le matin du côté du Bordelais, en allant vers les Charentes, le Limousin. Et puis, dans la journée, eh bien, ces averses vont suivre la même trajectoire qu'aujourd'hui, donc en direction du Jura et en passant par le Massif central et le nord de la région Rhône-Alpes. De part et d'autre de cet axe, plutôt instable, eh bien, nous aurons effectivement du soleil, alors plus ou moins généreux, mais c'est plutôt une belle journée, j'ai envie de dire, dans de très nombreuses régions, notamment sur la partie nord du pays. Beaucoup de soleil, vraiment du ciel bleu, et puis de très belles éclaircies en allant vers le sud-ouest et vers la région méditerranéenne, mais une fois les entrées maritimes dissipées, évidemment, on pourra en trouver vers le littoral de la Côte d'Azur, notamment sur la façade est de la Corse ou encore du côté du littoral aquitain. Et du côté des températures, ça remonte un petit peu à l'ouest, 15 à 29 degrés pour demain, 15 du côté de Boulogne-sur-Mer, nous aurons 19 à Brest, 20 à Caen, 21 degrés à Nice, 22 à Clermont-Ferrand, 23 à Paris, Nancy, Belfort, 24 à Dijon, 25 à Limoges, 26 à Lyon, Lyon et Marseille. Je vous donne une belle brochette de température. 27 à Bordeaux, Toulouse, Annecy et 29 à Carcassonne et Avignon.
Bah effectivement,
voilà. Je suis généreuse aujourd'hui en température.
Vous avez raison d'être généreuse parce que le week-end approche. Merci Marlène Duray. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1 avec Top à Wall Street et notre invité éco. Ce sera le patron de Bibs, un site de revente d'articles pour bébés à prix cassé. A tout de suite.
Europe 1. Alexandre Lemaire.
Le Top à Wall Street vous est présenté par BNP Paribas aux côtés des PME et des ETI engagés dans une démarche RSE avec ses solutions de financement à impact.
Top à Wall Street avec Didier Hamou. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
Wall Street qui continue de s'enfoncer avec les valeurs de technologie.
Ça baisse encore. Le Dow Jones recule de 0,33%, 31 730 points. Il y a le Nasdaq qui résiste un petit peu mieux, pratiquement stable, 11 371 points. C'est toujours l'inflation qui inquiète évidemment. Aux États-Unis, l'indice des prix à la production a flambé de 11% au mois d'avril, toujours au plus haut depuis 40 ans. Donc ça donne des valeurs très lourdes encore. Apple recule de 2,7%, 142,50$. On a Tesla, moins 0,8%. Google, moins 0,7%. Cisco aussi perd 0,7%. Quelques points de résistance quand même. Amazon, plus 1,5%. Netflix remonte de 4,7% à $174. Le pétrole grimpe encore, $106,60 le baril. On est en hausse d'1%. Il y a l'euro qui s'enfonce en revanche assez nettement sous les 1,04 face au dollar. Ça donne un euro au plus bas depuis 5 ans, depuis 2017.
La Bourse de Paris a reperdu 1% ce soir sur le CAC 40.
Oui, après son rebond d'hier, ça repart à la baisse. Le CAC 40 en baisse d'1%, 6206 points. Certaines grandes valeurs ont rechuté après le rebond d'hier. Beneteau, moins 11%, le fabricant de bateaux, a plongé en raison des tensions d'approvisionnement qui brident la croissance. On a aussi des valeurs comme Veolia, moins 5%, EDF, moins 3% dans l'énergie. Airbus, moins 2% avec Renault. Renault, 22,42€, qui va créer une entité autonome centrée sur l'électrique avec 10 000 employés d'ici 2023.
Exception du jour dans le secteur des puces électroniques, Didier, avec cette nette progression du titre STMicro.
Oui, plus 4%, ça se passe bien. Pour STMicro, 35,74€. Le groupe vise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 20 milliards de dollars en 2027 au plus tard, grâce à une demande toujours très soutenue, en particulier dans le secteur automobile, dans les télécoms aussi. Donc STMicro en hausse ce soir de 4%. Les autres places financières sont en baisse en Europe. Le DAX, moins 0,6% en Allemagne. Madrid, moins 1,2%, Milan, moins 0,7%, le CAC 40, donc 1% de perdu, 6206 points.
Merci Didier Hamou.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'invité éco. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
L'invité éco sur Europe 1, Morgan Hilmi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le cofondateur de Bibs. Alors Bibs, c'est un pionnier en quelque sorte de la vente d'articles d'occasion pour enfants, en particulier pour bébés. Première question que j'ai envie de vous poser, Morgan Hilmi, vous êtes venu comment l'idée? C'est quand vous êtes devenu vous-même jeune parent? Vous avez été affolé par le budget?
Exactement. J'ai eu mon premier enfant, mon petit garçon, il y a bientôt 3 ans. Et je me suis rendu compte, comme beaucoup de parents, comme beaucoup de nouveaux parents, que quand on a un enfant, on consomme beaucoup plus qu'avant. Et donc la conséquence de ça, c'est que ça coûte de l'argent, ça pèse sur le pouvoir d'achat des familles. Et je l'ai expérimenté en premier lieu. Et en parallèle, comme on consomme beaucoup plus, ben notre empreinte carbone, notre impact environnemental augmente aussi. Et c'est une préoccupation pour un nombre croissant de familles et de parents aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'avec mon associé Arsène Nuo, on a décidé de créer Bibs. C'est justement pour permettre aux parents de mieux maîtriser cette consommation nouvelle qui arrive quand on a des enfants.
Budget moyen, vous en parlez, par enfant de 0 à 3 ans en France, je crois, c'est 6 000 euros par an. On sait tous, ou on découvre tous à un moment donné, ce qui est bon pour un bébé un jour, évidemment, ne va plus 3 mois après. Je parle de la taille des vêtements, mais pas seulement. On trouve de tout, justement, sur Bibs, des vêtements, des équipements, des poussettes, je ne sais pas, on trouve vraiment de tout.
Oui, sur Bibs, en fait, notre approche, c'est justement qu'on permet sur notre application, on permet aux parents de répondre à tous les besoins et à toutes les envies de leurs enfants dès la naissance et jusqu'à l'adolescence. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir acheter et vendre des vêtements, des jouets, des équipements de périculture et même certains produits de consommation courante, comme par exemple des couches, tout ce qui finalement va permettre de répondre justement aux besoins, aux envies de ses enfants et d'économiser en achetant de seconde main ou de récupérer du pouvoir d'achat en revendant sur la plateforme.
Oui, Morgane Imi, je vous arrête un petit peu. Faut que vous nous expliquiez. On parle d'un site de seconde main. Vous venez de mentionner des couches, donc des consommables. Comment vous proposez des couches sur Bibs, Morgane Imi?
Bah écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, sur la première année de vie d'un enfant, on va consommer en moyenne entre 4500 et 6000 couches, ce qui est énorme. Et malheureusement, on ne vise pas toujours juste sur les quantités. Et en fait, à cet âge-là, les enfants grandissent et grandissent très vite. Et vous avez un grand nombre de tailles de couches maintenant, et souvent, les parents en achètent trop. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on se demande bah, qu'est-ce qu'on va en faire. On ne va quand même pas les jeter à la poubelle. Et du coup, ce que les parents font, c'est tout simplement que pour les rendre utiles et récupérer un peu de pouvoir d'achat, parce que les couches, ça coûte cher, eh bien, ils les remettent en vente. Et aujourd'hui, c'est un vrai usage de revendre des paquets de couches neufs. On a aussi, évidemment, des parents qui font le choix du lavable et qui revendent des couches lavables sur l'application. Mais en tout cas, c'est une catégorie très importante parce que ça coûte de l'argent. Donc, il y a un vrai intérêt, soit à les payer moins cher, soit à en récupérer une valeur pour derrière racheter des articles dont on a besoin pour ses enfants.
Alors avec une grosse économie réalisée par rapport au prix du commerce, j'imagine, quand on achète, je sais pas, des couches ou même du lait pour bébé que vous proposez sur Bibs.
Oui, effectivement, tout l'enjeu, c'est de proposer aux parents et de permettre aux parents sur Bibs de réaliser des économies significatives par rapport à s'ils achetaient neuf. Et sur Bibs, aujourd'hui, on peut réaliser des économies qui vont de moins 50 à moins 80%, souvent sur des produits dont on a besoin pour ses enfants, donc que ce soit des vêtements, des jouets, mais aussi des produits de consommation courante. Et ça pèse lourd dans, évidemment, le pouvoir d'achat des ménages. Et donc, c'est une économie qui est évidemment la bienvenue pour les parents. Et en parallèle, quand on revend sur Bibs, on gagne en moyenne entre 40 et 50 euros par mois. Et effectivement, c'est aussi finalement un pouvoir d'achat qu'on récupère et puis qui permet d'équilibrer son budget et puis de racheter finalement ce dont nos enfants ont besoin aussi.
Question du pouvoir d'achat, évidemment, centrale actuellement. Tout le monde le sait. Morgane Imi, quels sont les produits les plus demandés sur votre plateforme ?
Écoutez, c'est assez variable en fonction de l'âge des enfants déjà, c'est-à-dire que pour les parents d'enfants en bas âge, sur Bibs, on va avoir beaucoup de recherches d'articles de puériculture par exemple, typiquement des poussettes, des porte-bébés par exemple.
Les poussettes,
Mais pour les enfants plus grands, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les parents vont de plus en plus suivre les envies de leurs enfants, les modes qu'on va retrouver dans les cours de récré, qui vont parfois dépendre des films qui sortent au cinéma ou des dessins animés à la mode. Et nous, notre rôle, c'est d'être capable de répondre sur Bibs à tout cet éventail de besoins et d'envies qui vont caractériser les enfants dès leur naissance et jusqu'à ce qu'ils grandissent, jusqu'à l'adolescence.
En quelques mots, Morgane Imi, comment ça se passe sur Bibs? C'est une communauté, il faut s'inscrire, le service est gratuit, comment on fait?
Aujourd'hui, sur Bibs, c'est effectivement sur l'application une communauté de plus de 700 000 utilisateurs qui achètent ou revendent des articles de seconde main pour enfants. C'est 100% gratuit de vendre aujourd'hui sur Bibs. Et quand vous êtes acheteur, vous achetez effectivement au vendeur les articles de votre choix et vous payez effectivement une commission qui nous permet de financer le service et le fonctionnement de la plateforme et des frais de livraison qui vont dépendre tout simplement du poids et du volume de votre commande. En parallèle, on vous accompagne, sur Bibs, on accompagne nos utilisateurs et nos parents avec un service client qui est présent 7 jours sur 7, qui est basé en France, qui est particulièrement réactif et qui permet de s'assurer que tout se passe bien pour tout le monde.
Vous faites une place à côté des géants, je ne sais pas, Le Bon Coin, Vinted, vous arrivez à exister malgré tout? Parce que ces services-là, ces sites-là comme Le Bon Coin proposent également des articles pour bébés déjà.
Bien sûr, nous, ce qu'on apporte sur Bibs à nos utilisateurs, aux parents, c'est premièrement l'offre la plus complète et la plus profonde d'articles de seconde main pour enfants. On a plus de 300 catégories de produits qui sont disponibles et qui répondent vraiment à un éventail de besoins qui est très très large. Deuxièmement, on personnalise 100% de votre expérience d'achat et de vente en fonction tout simplement de critères qui sont importants. C'est quel âge ont vos enfants, quelles sont les marques qu'ils préfèrent ou que vous préférez pour eux, pour finalement s'assurer qu'on vous recommande uniquement des choses dont vous aurez potentiellement besoin. Et troisièmement, on permet aux parents d'économiser et d'optimiser beaucoup plus leurs dépenses que sur les plateformes classiques, puisque par exemple, on est la première plateforme à proposer le paiement fractionné, ce qui permet effectivement aux parents sur des achats très importants qui peuvent peser lourd dans le porte-monnaie, comme par exemple une poussette qui peut coûter jusqu'à plusieurs centaines d'euros, y compris en occasion, ben, tout simplement de respirer un petit peu et de lisser davantage les dépenses dans un moment de la vie où parfois ça peut peser un petit peu lourd.
Merci beaucoup Morgane Imi, cofondateur de Bibs, B-E-E-B-S, sur internet et sur appli, donc Bibs, pionnier de la vente d'occasion pour enfants.
C'était l'Invité Écho avec la Caisse d'Épargne, partenaire bancaire des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile. Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Et on parlait pouvoir d'achat il y a un instant, c'est à la une de vos journaux demain matin, vendredi, l'inflation mondiale qui relance les revendications salariales, c'est la une du Figaro. Les syndicats, pas seulement en France, se mobilisent dans tous les secteurs pour réclamer des augmentations de salaire afin de compenser bien sûr la hausse du coût de la vie. Une enquête à lire demain dans Libération, Martigues, ton univers impitoyable entre arnaque, coke et corruption, trafic de drogue international qui a permis de mettre au jour un invraisemblable système de marché truqué et de malversation qui ébranle l'Amérique communiste, symbole, écrit Libé, des dérives de certaines baronnies locales. Et puis tension sur le gaz russe, Poutine resserre les taux sur l'Europe, c'est à lire dans Les Échos, la Russie qui cesse d'alimenter un gazoduc qui fournit l'Allemagne via la Pologne. Le Kremlin sanctionne des sociétés gazières européennes. Les cours montent. L'Europe accélère la reconstitution de ses stocks, évidemment pour l'hiver prochain. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Olivier Delacroix vient de vous rejoindre, car c'est la libre antenne, Olivier.
Exactement, c'est le début de cette dernière libre antenne de la semaine, mon cher ami. Et ce sont nos dernières 2h30 de la semaine.
J'avais envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes superstitieux?
Alors...
Vous avez noté que c'est vendredi 13 demain.
Ah oui, alors ça, non, je ne l'avais pas noté.
Ah bon, c'est déjà un signe, c'est déjà un élément de réponse.
Je ne suis pas vraiment superstitieux sur le vendredi 13 et tout, mais je peux avoir vous savez, des tocs, ce qu'on appelle des tocs. Et la superstition, en fait, j'ai fait deux films sur les troubles obsessionnels compulsifs. Et dans ces troubles obsessionnels compulsifs, il y a une partie... fantasmagorique, une partie qui est basée pour certains qui peuvent être très affirmés sur la superstition, et donc d'où la répétition, vous savez, de gestes. Bon, je ne souffre pas de toc, je vous rassure, parce que je vois que vous commencez à me regarder de travers.
Mais jamais, pensez-vous.
mais par contre, je peux avoir des gestes de superstition qui vont là, j'ai une boule de papier, je suis à 2,50 m, bim, je la mets, vous voyez, dans cette poubelle-là, et d'accord, si ça rentre, j'ai une pensée qui accompagne, et normalement, si ça rentre, je me dis, voilà, ce sont des petites superstitions comme ça, vous voyez.
Bon, et sinon, vendredi 13, vous ne foncez pas chez le buraliste
pour le loto,
des jeux de hasard?
Non, je préfère parier sur le foot, sûr.
C'est plus votre truc, oui. Il y a plus de chances.
Mais parier... modérément.
Bien sûr, bien toujours évidemment. Avec modération.
Florian vous le dira d'ailleurs.
Toujours garder le contrôle.
Modérément.
Voilà. Je vois qu'il confirme, de l'autre côté de la vitre.
Voilà. Bon bah écoutez, autrement, tout va bien ?
Mais tout va bien. Hein ?
L'actualité, tout roule ?
Tout roule.
Bon, on vous retrouve pour un point donc sur cette actu,
bien sûr,
qui est quand même chaude. Hein. On plaisante, mais voilà. Et à 23h, et puis on aura à minuit, bien évidemment, le journal de la rédaction.
À tout à l'heure, Olivier.
À tout à l'heure, mon cher.